Chapitre 9. Dix louis en banque, monsieur Farjol, demanda le croupier. Farjol regarda sa montre. 5 heures. Venu au cercle pour un rendez-vous, il traversait la salle de jeu. Le baccarat languissait, les gros joueurs quittant Paris pour les villes d'eau. Jean, le croupier, qui lui adressait cette invitation, connaissait Farjol depuis 10 ans, et souvent il lui avait prêté 100 sous à l'heure du dîner. Dis Louis, oh, je veux bien, voilà 3 mois que je n'ai pas touché une carte. Oh, dis Louis, de plus ou de moins, dans votre situation, monsieur Farjol, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, vous êtes en veine, j'en suis sûr. Jean répéta, dis Louis en banque. Un grouillement se fit parmi les pontes. Plusieurs accoururent des salles voisines. Farjol prit les paquets de cartes, les battit, en distribua à droite et à gauche, abattit 9. Il n'y avait pas d'émotion. Il aurait perdu ses 10 louis qu'il serait parti tranquillement. Comme disait le croupier, 10 louis de plus ou de moins. Il gagna 5 ou 6 coups de suite. Combien ai-je en banque, Jean? 1 800 francs, à peu près. Farjol regarda de rechef sa montre et dit, « La banque est levée. » Il changea les jetons du cercle contre de l'argent à la caisse et donna 1 louis au croupier. « Vous voyez, monsieur Farjol, que vous étiez en veine. Y aurait-il moyen d'avoir 2 entrées pour le cirque anglo-français? Je sors ma bonne amie ce soir. » Il tira son portefeuille. « Voici les 2 entrées, Jean. »« Merci, monsieur. » Farjol quitta la salle de jeu en même temps qu'un ponte décavé qui s'écriait « Je ne ficherai plus les pieds dans ce tripot !» Il prit une voiture du cercle, passa à l'informé, au bureau de Moussac, puis à un dépôt de tabac de la Havane, où il se paya une boîte de 100 cigares. Alors il rentra chez lui dîner. Étendu sur les coussins de la voiture découverte, les jambes croisées, il regardait avec complaisance ses bottines vernies et son pantalon gris clair qui lui allait bien. Il tenait les gants froissés dans la main droite. En traversant le boulevard, il salua 2 messieurs qu'il connaissait et qui levèrent leur chapeau d'un air de considération. Il était heureux et sans inquiétude. Place Clichy, il acheta une tarte chez un pâtissier. « Ma parole, il y a des moments où tout réussit, dit-il à Emma. J'ai gagné 2 000 francs au cercle. Tu ne vas pas les reperdre, j'espère, mon chéri. Je croyais que tu ne jouais plus. » « Je ne joue plus, en effet, je n'ai pas l'intention de rejouer, sois tranquille, c'est le hasard qui m'a fait prendre une banque et j'ai voulu voir si j'étais en veine. » Emma l'embrassa. « Va, je sais que tu es raisonnable et j'ai confiance en toi. 2 000 francs, c'est notre maison de cet été. Quand allons-nous faire une tournée aux environs de Paris et chercher quelque chose ?»« Un de ces jours, la semaine prochaine, il me reste 2 ou 3 affaires à régler. » Nous irons du côté de Mantes. Je connais des endroits. Je me suis baigné dans la Seine par là. Il y a longtemps, mon chéri. Si on m'avait dit alors que je t'épouserais. Avec qui s'était-elle baignée par là autrefois? Ah oui, c'était avec l'employé du ministère qui avait la manie des bains froids. Une seconde, elle chercha son prénom, qu'elle ne se rappela pas. Jules, peut-être. Je nage un peu, tu verras. Farjol ouvrit la boîte de cigares, en alluma 1, l'aspira en connaisseur, déclara qu'il était bon. Il versa dans son café quelques gouttes d'une vieille eau-de-vie de cidre dont il avait acquis un petit fût et but lentement. « Dieu, qu'on est bien chez soi, » dit-il. Emma rapprocha sa chaise de la sienne, appuya sa tête contre son épaule, fermant les yeux quand la fumée du cigare lui arrivait dans la figure. Elle murmura « Ah, je t'aime bien, mon petit chéri, tu sais, je t'aime bien. » Farjol lui baisa légèrement les cheveux. « Ce qui nous manque maintenant, vois-tu, reprit-il, c'est un appartement confortable. Oui, on est réellement trop à l'étroit ici, et nous sommes trop éloignés aussi du centre de Paris. Il m'est difficile de recevoir quelqu'un. Après l'été, nous déménagerons, il n'y a qu'à donner congé avant de partir. Oui, il faut nous y résoudre. » Par exemple, au centre de Paris, si on veut être bien logé, on paie joliment cher. C'est un sacrifice indispensable. Nous n'avons pas besoin d'un appartement comme Moussac, parbleu. J'aurai des meubles payables, moitié en argent et moitié en publicité. J'ai un tapissier sous la main, celui de Vérugna. En voilà un qui nous a été utile, dit Emma. Ah, Vérugna, s'écria Farjol, je peux faire ma fortune avec cet homme-là et je ne suis pas un imbécile. « Que dirais-tu si tu me voyais arriver un de ces soirs avec 200 000 francs gagnés d'un seul coup ?»« Au jeu? Jamais de la vie. À la bourse, ma chérie. Tu crois que ce n'est pas dangereux, la bourse? C'est dangereux pour les gens qui n'y entendent rien, mais des gaillards comme Vérunia et Moussac, l'important est d'avoir des renseignements. Emma était inquiète cependant. Nous avons une quinzaine de mille francs à nous aujourd'hui. Ce serait bête de les risquer et de tout perdre. Il n'est pas question de risquer les quelques sous que nous avons. Tu peux t'en rapporter à moi. J'ai des idées. Sois prudent, n'est-ce pas? Je ne suis pas ambitieuse, moi, et je me moque d'avoir des chevaux, des voitures et de donner des soirées. Pourquoi ne continuerais-tu pas tranquillement ton métier où tu es bien posée et où tu commences à gagner de l'argent? Farjol sourit. Mon métier, crois-tu que mon métier consiste seulement à faire de la réclame à des Bork ou à des Griffiths? Tous les agents de publicité un peu sérieux s'occupent de bourse. Moussac fait des coups à chaque instant et empoche des sommes énormes. Oh, il y a assez d'idiots qui jouent à la bourse au hasard pour que des malins en profitent. Il faut faire de tout à Paris. Tiens, le mois dernier, si j'avais eu 20 000 francs à risquer, je gagnais 200 000 sur la hausse des actions de la banque marocaine. Vérunia et Moussac ne sont pas embêtés ce mois-là. 200 000 francs, dit Emma. Nous achetons une maison de campagne tout de suite. Par malheur, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, mais c'est tout de même plus commode de gagner 200 000 francs en jouant à la bourse qu'en étant magistrat, avocat ou négociant. On leur indiqua, à 4 kilomètres de Mantes, en aval de la Seine, une maison de campagne qui était en location. Ils allèrent la visiter le dimanche suivant. On l'appelait la Maison Verte. Elle appartenait à un peintre qui avait été décoré au dernier salon et qui devait passer l'été dans les villes d'eau. Le propriétaire la louait toute meublée. Il y avait en bas la cuisine, la salle à manger et une autre petite pièce. En haut, 3 chambres et l'atelier éclairé par une large baie d'où l'on apercevait la Seine. Le jardin s'étendait jusqu'au bord du fleuve et contenait un verger, un potager et une tonnelle sous laquelle on pouvait déjeuner. Farjol déclara que le paysage était beau. En leur montrant la tonnelle, le jardinier leur dit « Monsieur l'a mise dans le tableau qui lui a valu la croix de la Légion d'honneur. » Il insista sur les légumes. Il y en a pour toute la saison. Monsieur n'en achèterait jamais à la ville. Ce sera une rude économie, fit observer Farjol à sa femme. Emma admira un grand carré de salade. La vue d'un cerisier où plusieurs cerises commençaient à mûrir les décida. Farjol accepta le prix, 1 500 francs pour la saison. De plus, les gages du jardinier qu'ils gardèrent à leur service. Voici l'adresse de monsieur à Paris. J'irai le voir demain et nous emménagerons dans 8 jours. Ils visitèrent encore la maison, puis descendirent le jardin jusqu'à la Seine. Au bout de l'allée, un ponton servait à amarrer 2 canots, compris dans la location, un gros ventru et court où l'on était très à son aise, et un plus mince pour la course. Farjol n'osa pas monter avec Emma dans celui-ci, parce que, dit-il, les costumes de ville ne sont pas commodes pour ramer. Le jardinier leur fit faire une petite promenade dans l'autre. Emma se mouilla en embarquant, ce qui lui causa une véritable joie. Ils rentrèrent à Paris avec l'idée de s'installer le plus tôt possible, tant la maison leur plaisait. Nous recevrons peu de monde, dit Farjol. J'inviterai Velard à passer quelques jours. J'espère que Vérunia et Moussac viendront nous voir aussi de temps en temps. Des drames s'étaient produits dans les ménages Moussac et Vérunia vers l'époque du Grand Prix, et il n'était question que de cela sur les boulevards. Joséphine devenait insupportable et n'avait plus aucune retenue. Elle en arriva à tromper Vérunia avec un de ses rédacteurs, qui fut obligé de quitter le journal après le scandale qui s'ensuivit. Et un soir, dans un café de Montmartre, où elle allait parfois, malgré la défense expresse de son amant, elle se mêla à une bataille de femmes. Elle reçut des gifles, en donna, et les agents intervinrent. Joséphine criait dans le café: Je suis la femme du directeur de l'Informé! Les agents la conduisirent au poste, ainsi que les 2 autres femmes qui ne cessaient de s'injurier et de se menacer. Le secrétaire du commissaire de police, jeune homme indulgent et au courant des mœurs du quartier, leur adressa des remontrances. Mais Joséphine le prit de très haut avec lui. Si vous ne me relâchez pas tout de suite, vous aurez affaire à mon amant. Et qui est votre amant? Demanda ironiquement le secrétaire. C'est monsieur Vérunia, directeur du journal de l'Informé. Je vais envoyer quelqu'un au journal. Si Monsieur Vérunia nous prie de vous relâcher, nous le ferons par égard pour lui. Donnez-moi votre nom. » Une demi-heure s'écoula. Les trois femmes, réconciliées devant l'appareil inquiétant de la police, causaient doucement. Joséphine répondait de la situation. « Oh, j'en serai quitte pour une scène avec mon amant. Tant pis, ce ne sera pas la première. » Le secrétaire du commissariat les délivra en leur recommandant de faire moins de tapage dorénavant dans les cafés. Joséphine lui serra la main. « Bonsoir, jeune homme. Vous voyez bien que je ne blaguais pas. » « Je n'en ai jamais douté, madame, répliqua-t-il en s'inclinant galamment. » Joséphine ne s'en tira pas, comme elle le croyait, avec une simple scène de reproche. Vérunia lui dit brutalement, « Cette fois, ma petite, je t'ai assez vue. Fiche-moi la paix et va-t'en vadrouiller à Montmartre tant que tu voudras. » Brasier lui-même partagea cet avis. Il trouva que Joséphine avait dépassé la mesure. Cependant, il engagea Vérunia à lui laisser une centaine de louis pour qu'elle se débrouillât. Le directeur de l'informé y consentit après quelques hésitations. Brasier lui fit de la morale à propos de ses maîtresses. « Je ne te dis pas que tu devrais te ranger, être convenable, tu ne pourrais pas, ce n'est pas dans ton caractère, mais tu devrais renoncer à te coller avec les danseuses ou des filles de Montmartre qui te trompent avec tous tes amis et qui te couvrent de ridicule. Oui, il y a des jours où j'en ai assez, ma parole. Ce qu'il te faudrait, c'est une femme d'un certain âge qui ne tiendrait plus à faire la noce. Tu n'as jamais eu pour maîtresse une femme d'un certain âge ? Ma foi non, je ne me rappelle pas, dit Vérunia. Allez, prends exemple sur Moussac. De ce côté-là, il est plus malin que toi. L'as-tu vu avec des gamines vicieuses et compromettantes? Regarde Noël, elle a 38 ans, c'est vrai, mais elle est encore très bien. Elle a une conduite régulière. Je l'aime beaucoup, Noël. Elle me plairait aussi. Il n'y a pas que Noël dans ce genre-là. Enfin, réfléchis, que diable! Par une heureuse et singulière coïncidence, la brouille survenait en même temps dans le ménage de Moussac. Moussac était dans la situation inverse de Vérunia. Il n'avait jamais eu pour maîtresse que des femmes d'un certain âge, et à 40 ans, le goût lui venait des maîtresses jeunes et fraîches. Il se mettait à tromper Noël avec des figurantes et des demoiselles de magasin. Il la négligeait tellement que celle-ci comprit. « Ça ne peut pas durer comme ça, je n'ai pas besoin de toi, séparons-nous, bons amis. » Moussac balbutia un prétexte. Elle haussa les épaules. « Tu ne veux plus de moi, et moi j'en ai assez de toi. Bonsoir, ce n'est pas la peine de faire tant d'histoires. » Il se conduisit bien à son égard et lui fit cadeau d'une somme d'argent véritablement suffisante pour 3 années de liaison. Noël ne tarda pas à rencontrer Vérunia dans les détours de la vie parisienne, tandis que Moussac apprenait la rupture de ce dernier avec Joséphine. L'échange se fit simplement, et le monde vit d'un bon œil que des personnes aussi sympathiques que Joséphine et Noël ne se trouvassent pas sans position du jour au lendemain. Bientôt, on oublia les détails de cette aventure, et les nouveaux ménages se consolidèrent. En se revoyant, Moussac et Vérunia n'étaient pas gênés. Les deux femmes se parlaient comme autrefois, et prenaient le bras de leurs amants sans commettre la moindre erreur. Quant à Brasier, il se demanda auquel des deux couples il s'attacherait plus particulièrement, mais il avait l'habitude de Vérunia, dont il préférait les façons à celles de Moussac. Ils projetèrent tous de faire des parties ensemble pendant l'été. Les hommes ne quittaient guère Paris, retenus l'un par son journal, l'autre par la multitude de ses affaires, Brasier par son horreur des déplacements. Ils passaient seulement une semaine au bord de la mer, au moment des courses de Deauville. Joséphine proposa un jour d'aller voir Farjol et Emma à la campagne. « Nous sommes tous invités, allons-y, ils seront très contents. » Moussac acquiesça. « Au fait, Farjol me l'a encore rappelé l'autre jour. Je vais lui écrire un mot, il nous attendra à la gare. »« Oui, Farjol est un bon garçon, » dit Vérunia. « Viens-tu, Brasier ?»« Certes. Nous partirons demain matin, si vous voulez, Moussac. Vous vous chargez de le prévenir ?» « Oh, pourquoi le prévenir ?» reprit Joséphine. « Il n'y aura peut-être pas de quoi déjeuner, mais ce sera bien plus gentil. » Brasier blâma cette opinion. « Joséphine est toujours la même. S'il n'y a pas de quoi déjeuner, nous serons bien attrapés. Il y a un moyen beaucoup plus simple. Ne prévenons pas, mais apportons des provisions. » Joséphine battit des mains. « Oui, apportons des provisions, je m'en charge. Ah, nous ne mourrons pas de faim, je vous le promets. » Elle et Moussac arrivèrent en effet à la gare dans une voiture chargée de paquets. La charcuterie dominait. Brasier remarqua une langouste dont une patte dépassait et s'écria « D'où vient cette manie d'emporter toujours des langoustes ou des homards à la campagne ?» Personne ne trouva de ce fait une explication suffisante. Les hommes se partagèrent les paquets et tous les cinq montèrent dans un wagon. Durant le trajet, Joséphine fut bruyante. À Mantes, ils louèrent une voiture et se firent conduire à la Maison Verte. Farjol, à leur vue, manifesta une joie sans borne. « Ah, quelle bonne surprise, hein, mes amis, que vous me faites plaisir! Qui a eu cette idée-là? C'est Joséphine. Ah, elle est charmante, Joséphine, ma femme va être contente. Où est-elle donc, Madame Farjol ?» demanda Noël. « Elle est au bord de l'eau, elle pêche à la ligne avec Velard. »« Comment ?» dit Vérunia, « Velard est ici ?» Oh, depuis 8 jours, nous sommes revenus ensemble à mon dernier voyage à Paris, et il n'a pas bougé. » Ils entraient dans la maison, et Farjol leur donna des chapeaux de paille dont il avait acheté une quantité. Lui était vêtu tout à fait en campagnard, d'une blouse bleue et de gros souliers. « J'étais en train d'arroser les radis, » dit-il. Il les emmena au jardin, et Joséphine se hâta de cueillir des cerises en cassant des branches. Au bruit des voix, Emma accourut avec Velard. Ils avaient chacun une ligne à la main. Emma reçut de grands compliments pour sa bonne mine. Elle portait une matinée blanche, serrée à la taille par une ceinture. Velard pensa, « Et voilà des raseurs, nous étions si bien ici !» Brasier s'approcha de lui et, de l'air narquois qu'il avait toujours, « Comment va la pêche, jeune homme ?»« J'ai 3 gardons, et vous, Brasier, êtes-vous pêcheur à la ligne ?»« Dans votre genre, mon cher. » On déjeuna sous la tonnelle. Farjol, heureux de posséder à sa table des personnages d'une pareille importance, se prodiguait. Velard parla peu, observant à la dérobée Emma, qui, à côté du directeur de l'informé, lui faisait 1000 politesses. La conversation roula d'abord sur les heures des trains. Ensuite, Farjol offrit des radis qu'il avait semés lui-même et fit l'éloge de la campagne. Peu à peu, Vérunia se laissa aller à dire des choses légères, et comme Emma souriait, lâcha des mots très raides qui soulevaient des éclats de rire. Velard fronçait les sourcils, furieux du sang-froid d'Emma devant de telles grossièretés. Après déjeuner, les dames voulurent monter en canot. « Je sais ramer, moi, je vous conduirai !» s'écria Joséphine. « Non, répondit Farjol, ce ne serait pas prudent, il y a trop de courant, il faut que quelqu'un vous accompagne. » Velard offrit ses services avec empressement. L'arrivée de tous ces visiteurs l'exaspérait. Brasier lui semblait ironique. À table, il avait fait 2 ou 3 plaisanteries inquiétantes en le regardant. Et puis, ces 2 grues qui se permettaient de parler à Emma comme à une de leurs semblables. Farjol était bien inconséquent. « Allons, mesdames, en bateau !» Et en quelques coups d'aviron, il s'éloigna de la rive, heureux d'arracher Emma à ces hommes débineurs et sans scrupules. Alors Farjol insista pour leur faire visiter le potager. Pendant qu'il expliquait la façon de semer les radis, Brasier poussa du coude Vérunia. « Tu les as vus, hein ? Qui ça ? Eh bien, la dame est Velard, tu crois ? Il n'y a aucun doute, elle est parfaite, impossible à rien deviner, mais le petit, quel serein !» Vérunia, très heureux, dit tout haut, « Ah, ce bon Farjol !» Celui-ci se retourna en souriant, « Est-on tranquille ici? Ah, ça vous change du boulevard. Pas de gêne entre nous, n'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, reposez-vous, j'ai des hamacs. »« Ah, j'accepte, moi, » dit Brasier, « le hamac est ce qu'il y a de plus intéressant à la campagne. J'adore fumer une pipe en me balançant. » « Ah, vous restez à dîner, c'est convenu. Je vais commander une carriole dans le pays pour vous ramener à Mantes au train de 9 heures. » Missac, mis au courant de la découverte de Brasier, laissa voir aussi une grande satisfaction. Mais la joie de Vérunia était immense. « Ce sacré Farjol! Décidément, j'aime énormément ce garçon-là. Quel flagme! Si nous lui disions que sa femme le trompe, je suis sûr que ça lui serait égal. » « Cela lui ferait même peut-être plaisir, » ajouta Moussac. Brasier eut de la peine à arrêter Vérunia qui ne se contenait plus. « Tu n'es qu'un salopard, sa femme le trompe, après, est-ce que ça te regarde ? Farjol est un gaillard très intelligent, pour lequel j'ai de la sympathie. »« Moi aussi, » fit Moussac. Fais-moi donc, exclama Vérunia, c'est pourquoi je voudrais le prévenir. À quoi cela servirait-il, continua Brasier, il vaut mieux nous en amuser. La journée se termina gaiement. À 8 heures, la voiture arriva et les dames s'embrassèrent. J'irai à Paris un de ces jours pour affaires, dit Farjol. Je passerai à l'informer. Vous serrez la main, Vérunia.